Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir accompagnants. De reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique est fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 8 d'Atypique, nous explorons la transition fascinante d'Anne-Sophie Rojon-Domergue, de chanteuse d'opéra à hypnothérapeute pour artiste. Découvrez comment une période sombre a mené Anne-Sophie à l'hypnothérapie, transformant son mal-être en un puissant outil de guérison pour elle-même et ses pairs artistes. Anne-Sophie partage les leçons tirées de ses propres défis, soulignant l'importance cruciale de l'authenticité et de l'acceptation de soi. Elle dévoile également ses stratégies pour combattre la peur et le doute, et comment ces méthodes favorisent une vie professionnelle et personnelle épanouie. Découvrez le parcours atypique d'Anne-Sophie, une femme extra avec qui j'ai toujours passé des moments super, qui a cette force de mettre en mouvement de la bonne façon et d'aider à oser et passer outre le mental en faisant des choses alignées et authentiques.
Salut Anne-Sophie.
Salut Laurent.
Bon, ça me fait plaisir de t'avoir. Alors, on se connaît bien, tous les deux.
Bah oui, merci. Merci de ton invitation.
Depuis le temps. Alors, t'as pas mal évolué, etc. Mais pour ceux qui te connaissent pas, s'il y en a encore qui te connaissent pas, non. Tu me présentes un peu d'où tu viens, ce que tu fais, où tu vas, où tu étais.
Ok. Alors, je m'appelle Anne-Sophie Rojon-Domergue. Maintenant, j'ai mon nom de jeune fille devant mon nom ancienne mariée, puisque j'ai divorcé il y a un an. Moi, je suis chanteuse lyrique. Je le suis toujours, parce que je fais quelques récitals encore à l'étranger, notamment au Portugal dans 2 semaines, là. Donc, je chante de l'opéra essentiellement depuis 25 ans, un peu plus, même presque 30 ans maintenant. Et je me suis formée à l'hypnose il y a 11 ans, donc en 2013. Voilà, donc depuis, je suis principalement dans l'accompagnement au niveau thérapeutique et essentiellement, j'accompagne des artistes de scène puisque c'est mon réseau principal, quoi. Donc, je fais beaucoup de préparation mentale, beaucoup de... tout ce qui tourne autour de l'hypnose, la PNL, l'EFT, voilà, et je kiffe mon métier, vraiment.
Oui. C'est un truc que tu fais depuis pas très très longtemps, de t'être spécialisé dans les artistes, ces trucs comme ça. À un moment donné, tu as fait plus du cabinet standard, on va dire.
Standard, ouais. C'est ça. Au début, je faisais du cabinet standard complètement. Et puis même pendant un temps, je me suis focalisée sur la voix des thérapeutes. Donc, oui. J'ai fait des stages ou des séances individuelles sur la voix d'un praticien en hypnose, etc. Et puis vraiment, les artistes, c'est venu d'un coup, quasiment d'un coup, il y a à peine 2 ans, je dirais, où là, vraiment, il y a une explosion au niveau artistique. C'est comme si ça avait été naturel quoi, que les artistes viennent à moi. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est évident, quoi. C'est complètement une évidence que je connais tellement ce que c'est que l'enjeu de la scène que ça me paraissait complètement aligné avec qui j'étais, quoi.
Oui, ça paraissait... logique, mais c'est vrai que...
Ben, c'est ça, c'est, logique.
Après, ouais. L'expérience... qu'est-ce qui fait que tu as arrêté, entre guillemets, l'opéra pour dire, tiens, je fais de l'hypnose, je fais du cabinet, je vais accompagner des gens en thérapie, tu vois, c'est quoi le...
Ouais, alors le truc... alors, il y a une dépression, quand même, au départ. Plus envie de chanter, plus de joie de faire ce métier. 2007 a été une année très, très noire pour moi. Et puis, j'avais vraiment plus... Tu sais, quand on chante, c'est qu'on est joyeux. Les gens qui sifflent, qui chantent, qui chantonnent un peu chez eux comme ça, c'est qu'il y a de la joie en eux. Moi, j'avais plus du tout envie de chanter, donc j'avais perdu toute ma joie. Et là, j'ai rencontré, pas par hasard, mais voilà, j'ai rencontré une hypnothérapeute qui m'a vraiment aidée, mais très rapidement en plus, à redevenir actrice de ma vie, à reprendre un peu du pouvoir sur ma vie, à reprendre goût aussi, parce que j'ai fait 2 tentatives de suicide hein, il y a en 2008 et 2009, donc ouais, je suis allée très loin dans plus envie de vivre du tout. Et en 2010-2011, donc je commençais un petit peu à me relever, entrecoupée d'hospitalisation pendant assez longtemps quand même. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas me former à cette méthode, parce que je trouvais ça assez bluffant quand même, la rapidité avec laquelle j'avais évolué, alors que j'ai fait beaucoup de psychanalyses qui n'ont pas beaucoup donné de résultats, on va dire. Mmh. Et l'hypnose a permis quelque chose, comme si je reconnectais avec mes émotions ou... et quelque chose qui reprenait vie en moi. J'étais curieuse, en fait, de cette méthode. Donc voilà, j'ai cette personne qui m'a aidée, m'a formée à l'hypnose. Moi, c'est pour ça que je suis un peu atypique aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école, hein, je n'ai pas fait de l'art, j'ai fait aucune école, sauf après, pour avoir mon certificat de maître praticien, je suis allée au CNFDI à Nice, où là, j'ai eu mon maître Pratt et j'ai fait des stages pratiques, etc. Mais sinon, pendant 2 ans, à raison de un week-end par mois, elle m'a formée avec un petit groupe de 6-7 personnes.
Ce qui est peut-être pas et plus mal, en fait.
Mais... Et oui, c'était super. Parce que un week-end par mois, on a vraiment le temps de digérer, de pratiquer. J'ai tout de suite pratiqué sur mes proches, sur mes amis. Et puis, je voyais, j'avais des bons retours. Je dis, oh, bah, tiens, OK, ça marche, c'est intéressant. Et 2015, je me suis mis le défi de prendre un cabinet parisien. En 2 mois, j'ai dit, bon, écoute, tu vas, tu cherches. Tu n'as peut-être personne au début, mais vas-y. Et j'ai eu ce cabinet à Châtelet, en plein milieu de Paris, comme ça. Personne ne pouvait me dire que c'était trop loin. Parce que ça, à Paris, souvent, hey, c'est trop loin. Maintenant, j'ai à Châtelet, là, en plein milieu. Et j'avais personne au début. Hein. J'avais pas grand monde au début. Et en 2 mois, c'était complet. Parce que j'avais deux jours par semaine et j'avais 7 séances par jour en bout de 2 mois.
Comment tu as fait pour que ce soit complet?
J'ai laissé venir et en même temps, je me suis mis sur les réseaux sociaux quand même, parce que même si j'étais pas trop OK, il y a eu un site internet qui a été fait et puis le webmaster m'a dit ce serait bien que tu te mettes sur Facebook. OK, donc je l'ai fait et c'est vrai que ça a aidé beaucoup.
Tu as posté du contenu ou tu as fait de la pub ou c'était quoi le...
J'ai fait de la pub et le bouche à oreille, comme je m'étais entraînée pendant 2 ans avant avec mes amis, ma famille, et ben, le bouche à oreille s'est aussi fait très très rapidement, mine de rien. Je trouve que c'est ce qui fait que je travaille le plus aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, vraiment, plus que les réseaux sociaux.
Ah bah, une fois que tu as un peu d'expérience, que tu as pratiqué avec pas mal de monde, après, souvent le bouche à oreille.
Ouais.
Et pas mal de boulot.
Tu fais tout de suite.
En plus, toi, aujourd'hui, dans ton domaine, des gens qui font ce que tu fais, toi, qui sont à la fois coach, thérapeute, préparation mentale et artiste, avec l'expérience que tu as de l'opéra, lyrique, etc. Il ne doit pas y en avoir 50. Hein. Donc, le bouche à oreille.
Non, là, je suis un peu la seule dans tout ça. Et puis, comment le milieu est petit aussi.
Comment tu as vécu la bascule, parce que ce n'est pas forcément évident, entre le sujet qui se fait aider avec la dépression, tout ce que tu as vécu, et c'est moi qui aide les autres, tu vois, parce que
ça s'est fait assez tranquillement, je dirais, et ça m'a aidé moi-même aussi à me relever, parce que je me suis dit, je suis peut-être utile pour les gens. Ouais. Pas mal de se sentir utile quand même. Hein.
C'est important.
Quand on sent qu'on sert à quelque chose et... Il y avait... Non, c'était hyper... Ça m'a remise dans la vie, en fait.
Mm-hmm.
C'est ce truc-là qui m'a dit, peut-être qu'on va te... Peut-être c'est la reconnaissance que j'attendais. En tant qu'artiste, j'en avais beaucoup, évidemment, hein, les applaudissements, les anana. Mais il me manquait quelque chose dans ce milieu qui est très dans la reproduction de...
Oui, c'est pas la même reconnaissance. Ouais.
C'est pas la même. C'est le talent, c'est la chanteuse, c'est Anne-Sophie la chanteuse. Mais moi, en tant que femme, il manquait cette dimension, cette profondeur, quoi. Et là, dans l'accompagnement, je me suis dit, mais si je suis moi-même et si je suis vraie, je peux me détendre aussi. Mmh. Je peux me détendre, j'ai pas besoin de mettre un masque. Et en plus de ça, les gens me disent que je leur fais du bien, mais c'est super. Ça a été super, quoi, pour moi.
Et un peu plus tard, tu as basculé vers les stages de voix pour les hypnos. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça?
Au début, c'était une jeune femme qui m'avait dit « Tiens, ce serait bien que tu puisses faire des ateliers hypnose et chant. » Oh, je dis, c'est original, pourquoi pas. J'en avais fait un. Et puis, je me rappelle, c'était à Lyon. Et j'avais 21 personnes d'un coup, hein, quasiment que des infirmières, auxiliaires de puériculture et tout, que des femmes. Et puis, je les ai faites chanter un peu avec des méthodes hypnotiques. Et je me disais, c'est super. Et tout le monde me disait, ce serait bien qu'il y ait une suite, parce que là, 3 heures, c'est un peu court. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire des stages de hypnose et chant. Puis après, je ne sais pas pourquoi ça me... Je ne voyais pas trop le concept comme ça. Je dis, ce n'est pas des chanteurs que je vais attirer parce qu'ils savent déjà. Un chanteur, il sait se mettre en fait en hypnose. Hein, sans le savoir, il est sous hypnose quand il chante. Donc, ça ne va pas l'intéresser. Les praticiens, ils n'ont pas besoin. Et puis, c'est là où est venu le concept d'hypnose et voix. Mais je dis, mais en fait, la voix, c'est tellement important. Là, on est en train de parler, par exemple. Et les gens qui ne nous voient pas, ils sentent notre humeur, ils sentent notre énergie. Et c'est comme ça que j'ai initié ces stages, ces ateliers, avec des bases de pose de voix, avec des expériences hypnotiques. Et puis, ça crée deux jours qui sont super, quoi. Des techniques propres à chacun aussi.
Tu le fais plus, ce stage ?
Et je le fais plus, non. Je le fais plus parce que là, je me dispersais un petit peu. Si on me le redemande, je viens. Mais c'est vrai que depuis les artistes, je pense que c'est vraiment ça qui m'attire le plus, en fait.
On en a parlé un petit peu, je crois. C'est le fun de se focaliser un peu sur un domaine et d'aller là.
C'est ça.
Une fois que tu l'as développé, tu peux te... Les gens s'éparpillent beaucoup et je pense que c'est important de choisir un endroit où on se sent bien. Et ce qui est bien aussi, je trouve, dans ton expérience, c'est que tu... Souvent, les gens, ils ont des problèmes de légitimité, etc. Parce qu'ils oublient l'expertise du passé, tu vois. Et toi, tu arrives à... Je vais la faire un peu plus tard, mais assez vite quand même, tu as combiné ce que tu étais avant dans ton métier, donc ton expertise de chanteuse, de chanteuse d'opéra, de scène, de posture, d'attitude, de pose de voix, de souffle, etc., avec l'accompagnement. Et donc, c'est
ça.
Et ça, c'est...
C'est ça, j'adore. Et en plus, je ne voulais pas quitter le chant. Il y avait une partie de moi qui me disait, ah là là, si j'arrête complètement, c'est quand même... Ça fait partie de moi, quoi. C'est une passion. En fait, c'est un métier de passion. Et un métier de passion, tu ne peux pas l'enlever comme ça. Donc, j'étais prête à abandonner complètement et en même temps, je me suis dit, ça va me manquer. Et puis là, c'est super. Non seulement, en plus, je rechante ponctuellement, là, de temps en temps. Donc, ça me fait un bien fou, parce qu'en plus, la voix s'est libérée d'une façon incroyable. C'est fou, hein, quand on arrête un métier, ça se libère. Il n'y a plus l'enjeu financier, il n'y a plus l'enjeu de continuer. Assez dingue. Donc la voix, elle est... Bah, des fois, je suis... Ah bon, d'accord. Ben, si ça avait été comme ça dans ma carrière, je serais allée plus loin. Ça, c'est sûr.
Ouais, quand il n'y a pas la pression de devoir faire pour, ça libère.
Voilà. Il n'y a que du plaisir.
C'est la posture idéale en thérapie, hein, c'est qu'il y ait de réussir à se détacher des enjeux, mais ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Et moi, je trouve que dans le... Moi, t'es venu un petit peu à la maison, je connaissais bien, pour faire travailler sur la voix. Parce que moi, j'articule pas très bien, c'est pas trop mon truc, je respire à contre-temps. Bon.
Ouais.
Bon, je suis un cas désespéré. Enfin, faudrait que je bosse, mais j'ai la flemme, je le fais pas. Bon, peu importe. Et, un truc, moi, avec lequel je suis pas à l'aise, t'étais là, on en avait parlé, donc, je me sens un peu ridicule, j'ose pas, j'ai peur, je dis qu'est-ce qu'elle va penser, là c'est nul, je chante faux, j'ai l'air ridicule dans la posture, le machin. Et donc en fait, c'est pas juste la voix, toi, moi, qui m'a aidé, qui m'a fait me questionner quand on en avait parlé, que t'étais venu, c'est tout ce qu'il y a derrière le fait de pouvoir chanter, et toi, et de pouvoir s'exprimer, d'exprimer sa voix. C'est, je partage un peu parce que je peux un peu intéresser les gens de bosser sur la voix. C'est pas juste pour bien poser sa voix et chanter, c'est tout ce qui est derrière, donc la honte, le jugement, le regard de l'autre. Moi, tu m'avais demandé, je me souviens, quand est-ce que ta voix elle sort. Je dis, moi, c'est quand je suis en colère. Et donc ça revient à ce que je dis dans d'autres podcasts, tu m'as fait connecter la posture, l'énergie colère, mais de l'exprimer d'une façon qui soit pas colère. Ça m'a vachement aidé, parce que maintenant je sais ce que c'est ce que je fais en stage. Je vais chercher la même attitude, la même posture et la même énergie que quand je suis en colère.
Exactement.
En le faisant, là, ça vient un peu. Donc, je pense que
tu dois avoir la voix. Ah ouais, tu vois, ça vient.
Et c'est la voix porte différemment. Avant, en stage, ça va, vous m'entendez bien en fond. J'avais toujours des gens pas trop. Là, on ne m'a pas dit. Après, j'ai toujours des problèmes d'articulation, mais je ne fais pas les exercices. Donc, pas de secret. Mais je parle trop vite, je mange les mots. Bon, ouais, tant pis, c'est comme ça. Ah ouais. C'est devenu ma marque. Mais voilà, pour ceux qui écoutent, c'est pas juste la voix. Et toi, je pense que ça a dû vachement t'aider au début, parce que si t'as fait de la scène pendant 25 ans, et surtout du chant, je pense que ça...
Oui.
Je sais pas, tout ce qui est confiance, regard de l'autre, l'entraînement, la pratique, enfin toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour d'être un artiste d'opéra en général.
Quand tu vas chercher cette énergie de la colère, je suis sûre que tu oublies un peu la honte, l'humiliation, et que ça donne beaucoup d'assurance, finalement. Donc, tu vois, de passer par le corps, comme quoi ça peut aussi... Tiens, si je cherchais l'énergie de la colère, du coup, tu oublies un peu le jugement, ce que peut penser de toi.
Ouais, c'est un truc qui m'a aidé, en tout cas, à l'intégrer, cette prise de conscience, que cette énergie colère, que j'évoque dans plein d'autres cas, en plus en thérapie, l'intégration... Et ce passage de l'utiliser aussi dans la voix et la posture est quelque chose qui m'a aidé à à l'intégrer, à en faire une force, un levier, la reconnaître aussi quand elle est là, parce que quand la posture change, je dis « Ah, il y a un truc qui m'énerve », donc c'est vachement intéressant. Mais la question était plus tournée vers toi, c'est, j'imagine, oui. je donne un peu la réponse en posant la question, ce qui est un peu con, mais que ça a dû vachement t'aider par rapport au début, le problème de légitimité, d'oser, de machin, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que c'est des choses que tu as vécues quand même
Tellement, c'était plus un besoin d'exprimer cette colère dont tu parles aussi. Hein. Il y avait quelque chose en moi qui était pas exprimé, et le chant, c'était plus un exutoire. J'ai pas eu trop ce truc d'illégitimité, moi. Il y a beaucoup d'artistes qui m'en parlent de ce problème, et je l'ai pas tellement senti. Moi, c'était plutôt un besoin d'exprimer. Voilà, un besoin de sortir cette voix, peu importe ce qu'on allait en penser. Alors évidemment, oui, on a besoin d'être aimé, d'être admiré, etc. Mais ça venait après ça. Mmh. Et plus dans le fait de chanter, il y avait plus un cri. Voilà.
Ouais. Moi, pour t'avoir vu, je crois que tu as fait un des premiers déménagements intérieurs de mémoire, c'est là qu'on s'est rencontrés.
Oui.
Hein. Ce qui a aidé de loin de... c'est ce qui fait que tu t'as développé, t'as eu assez vite du bouche à oreille, etc. C'est pas forcément les résultats, même si ça joue. C'est la posture, justement, ta voix, ton port de tête. Toi, il y a beaucoup de gens, je vais être un peu provoque, mais des fois, je leur dis, on sait pas qui c'est le sujet, tu vois.
c'est ça. Ouais.
Parce que la posture, l'attitude, le port de tête, bah, c'est des trucs qui créent de la confiance, qui créent de l'autorité, et donc il y a tous les phénomènes de psychologie sociale qui jouent, et de liens, et de rapports. Et c'est vrai que toi, on te voit tout de suite, boum. Après, moi, je t'avais demandé de chanter un truc, t'as failli péter les vitres. Donc, pour ceux qui connaissent pas Anne-Sophie, elle est plutôt très mince, plutôt pas très grande. Et donc, quand elle sort la voix, ça fait tout bizarre. Mais je pense que c'est... Je profite que tu sois là pour dire aux gens de vraiment d'aller chercher avant, parce que je trouve que les gens travaillent trop sur leurs techniques et leurs outils et pas assez sur qui ils sont à la fois en connaissance de soi, mais aussi en attitude et en posture, en voix.
Ah ouais.
Et c'est,
même pour un thérapeute.
Ouais.
Tu vois?
Je pense qu'on peut regarder le port de tête, l'attitude physique de quelqu'un et dire s'il a des clients ou pas.
Oui. Exactement. Ça, je suis complètement d'accord.
Donc ouais. Je pense que c'est vraiment un axe de travail. Moi, j'avais pris des cours de chant avant de te connaître, et ça m'a... Je chante comme une casserole. Et ça m'avait aidé à... Justement, sur ça, sur cette... Là, je fais des gestes avec mes mains, mais d'ancrage sol, tu vois. D'aller puiser l'énergie. Moi, c'est ma... Comme ça, je le visualise, mais en bas, justement, pour la... Et puis,
tu vois, d'être assis au bord de sa chaise et pas complètement affalé derrière. Mm-hmm. Ça, c'est hyper important aussi, un thérapeute, celui qui donne, il est assis devant, il n'est pas affalé. C'est hyper important. Même quand on voit arriver quelqu'un, si on n'est pas ouvert, si on est fermé, ça ne donne pas confiance d'être fermé.
Ouais. Et c'est des trucs qu'on retrouve partout. Hein. Moi, je vois sur mon bureau, là, par exemple, si, en fonction de là où je positionne l'écran et de comment je m'assois sur ma chaise, je n'ai pas du tout la même énergie. Je reconnais les postures qui me déprime, qui me donne pas envie de bosser, et celles qui sont créatives et qui me donnent envie de faire des trucs. C'est
ça. Et tu diras même pas la même chose selon ta position.
Ah non, ça c'est sûr.
En plus.
Et je vois bien.
C'est primordial.
Deux, trois derniers mois, je n'étais pas trop en forme. Enfin bon, plein de raisons. Et je me dis, quand je marchais dans la forêt, je me dis, je vois bien, j'ai pas la même posture, tu vois. J'ai tendance à regarder en bas. Bon, bref.
Voilà.
C'est au-delà de la voix.
C'est une attention à soi.
Il y a tout ce qui se joue avant pour pouvoir poser sa voix et chanter, qui, je pense,
exactement.
Devrait être un axe d'exploration et même de travail chez beaucoup, beaucoup de gens, en priorité avant tout le reste.
Ah ben ça, je suis convaincue de ça. Et même, on attire beaucoup plus les gens à soi si on est ouvert. Et puis, c'est quand même tellement plus agréable d'avoir quelqu'un qui a le port de tête levé, avec un sourire. Souvent, on m'entend au bout du couloir, au cabinet, et puis on me dit « Ah, plaisir d'entendre ta voix », parce que je dis bonjour aux gens du couloir, moi. Oui. Avec un beau bonjour, voilà. Et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup.
C'est sûr. Bref, je vais parler un peu tout seul, mais comme c'est des trucs que le chant, nos discussions, nos échanges et nos exercices m'ont aidé à intégrer, j'avais envie de faire un petit témoignage là-dessus et pour voir que les gens puissent prendre conscience de ça. Une question que j'aime bien aussi que je pose de temps en temps, c'est quoi le meilleur compliment que tu as reçu?
C'est la gratitude, c'est le merci pour qui tu es. Beaucoup plus merci pour qui tu es que merci pour ce que tu fais. Curieusement, ça me touche. Parce que c'est là où ça vient rechercher le côté vivant en moi qui a de l'importance dans ce monde. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Beaucoup plus que des applaudissements. Hein. Oui. Rien à voir.
Et c'est pas ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a ce truc dans l'accompagnement qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pratiques. Comme le lien, le rapport, la confiance, qui on est important, a une influence non négligeable.
C'est ça. Beaucoup plus que ce que je fais. Hein. C'est ça qui est... Si on me dit merci pour ce que tu fais, ça me touche moins.
Oui, c'est sûr.
Parce que ce que je fais, ça dépend tellement des journées, des envies, de mon énergie, de tout ça. Hein. Mais merci pour qui tu es, je dis, ah bon là d'accord, j'ai marqué un truc là. Ouais.
Ouais, c'est cool. Est-ce que dans l'accompagnement et même avant, s'il y a des moments difficiles, des fois tu dis j'en ai un peu marre, j'ai envie de faire autre chose, les difficultés, les hauts, les bas peut-être du métier, d'évolution dans l'accompagnement, comment tu les as vécues, si tu les as vécues, comment tu les as dépassées, traversées, qu'est-ce qui t'a aidé?
J'ai pas vraiment. Alors j'ai jamais eu envie de faire autre chose. J'adore l'ascension là qui se profile là. J'adore ça et j'ai même le projet de. J'ai encore des petits projets sympas qui vont venir. Mais il y a des journées où j'ai pas envie. Bah comme tout le monde, hein, j'ai des jours où j'ai pas du tout envie. Et les jours où j'ai pas envie, alors tu peux être sûr que j'ai des annulations ou que personne m'appelle. Ça me fait toujours rigoler. Mais en même temps, bah oui, il y a des journées où j'ai envie qu'on me fiche la paix. Et ce qui est peut-être plus difficile pour moi, c'est de mettre de côté souvent ma vie privée et mes émotions dans ma vie privée, vraiment personnelle, et le métier. Donc là, quand il y a plein de choses qui brassent, bah, notamment le divorce, etc., ça a été quand même une épreuve pour moi. D'être complètement avec les gens, ça me demandait beaucoup d'efforts. Parce que je disais à ma tête, après, on verra après. Mais pour l'instant, c'est l'autre devant. Ça me demandait beaucoup, beaucoup d'énergie, d'effort. Donc là, je prenais moins de personnes. Là, j'adaptais un petit peu. Voilà, je prenais moins de personnes. Je prenais plus de temps pour moi aussi.
Ouais. Donc, je pense que c'est essentiel. Il y a pas mal de gens qui ont des hauts et des bas, qui ont du mal à avoir des clients, se faire connaître. Ça n'a pas l'air d'être trop ton cas, mais...
Non,
tu n'as pas eu de problème.
Non, c'est hyper régulier. Franchement, c'est hyper régulier. Je trouve que même je suis à peu près 2 mois là, de remplissage d'agenda. Donc, c'est bien.
Alors, en ce moment, surtout dans ta spécialité, là, je parlais plus peut-être avant, au début, tu vois, c'est plus...
Non. Non, même le Covid, il n'a pas trop empêché non plus parce que je me suis mise à la visio. Je dis, la visio, j'ai fait des ateliers hypnose et voix en visio pendant les confinements. Ça s'est très, très bien passé. Je me suis dit, finalement, la visio, ça marche très bien aussi. Donc, je n'ai pas eu de grosse période où j'avais rien.
Oui, qui n'est pas courant, justement. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est... on en a déjà parlé un petit peu, il y a des paramètres, mais c'est quels sont les paramètres, à ton avis, qui font que tu n'as pas eu, toi, tu n'as pas ces hauts et ces bas, tu n'as pas eu de problème à développer ton activité, tu as eu cette... moi, j'ai mon idée là-dessus, tu vois, mais sur toujours cette envie d'aller vers l'avant, tu passes vite à l'action. Moi, je suis un petit peu en coaching, on dit un truc, c'est fait le lendemain, tu vois.
Il y a une discipline, déjà. Il y a une discipline et il y a en même temps... mais il y a chez moi, il y a un truc, c'est pas facile à expliquer, mais il y a comme quelque chose qui, dans le pro, pour moi, j'ai une confiance absolue. J'ai toujours eu confiance dans ce que j'allais faire, que j'ai pas peur, en fait. Oui. Je dis, vas-y, essaye, vas-y.
Et justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui fait que t'as pas peur ? T'as de pousser le sujet un peu plus loin, que t'ailles... que tu nous partages tes secrets inconscients, tu vois. Donc, tu passes à l'action, tu passes à l'action très vite, t'as pas peur, t'as confiance dans le pro, même quand t'as débuté, etc. Et moi, je sais que je suis plutôt lent à l'action, je réfléchis longtemps, j'ai une discipline, c'est pas mon fort, donc ça m'intéresse parce que ça m'intéresse moi. C'est comment tu fais, toi, si tu devais enseigner cette discipline à quelqu'un, cette force de passage à l'action, tu devais faire un stage dessus, ce serait quoi le programme, tu vois ? Ça, ma question. Question difficile, les podcasts ne sont pas préparés.
Ouais, non, c'est difficile parce qu'il y a un truc qui ose en moi et qui n'est pas permis à tout le monde non plus. Mais c'est... Moi, j'adore les challenges, quoi. Je me dis, c'est la vie, quoi. C'est super de foncer, d'y aller. C'est comme en sport, là. En ce moment, je me fais des challenges... Je découvre mes capacités physiques. Donc je me dis, ben pourquoi pas dans le boulot faire pareil. Il y a un truc qui me grise, en fait. C'est presque enivrant, tu vois. Et en fait, je ne supporte pas la routine. Je ne supporte pas le train-train, plan-plan, rester là, faire la même chose toute sa vie. Moi, il faut que ça grandisse tout le temps, quoi.
Oui.
Il faut que ça grandisse. Je pense que c'est ça qui fait qu'après je continue à rester accro à ce que je fais, parce que je vois pas faire la même chose tout le temps. Tu vois, faut que ça bouge, faut que ça évolue.
Ouais, parce que si ça bouge pas, il passe quoi ?
Ben, si ça bouge pas, là il y a c'est pour moi c'était presque de la mort, quoi. Il y a l'immobilité, il y a, je te dis, la routine, espèce d'ennui. Voilà, il y a l'ennui qui arrive.
Ouais.
Ah, l'ennui. Ça, c'est pas chez moi, ça.
C'est marrant, ça revient un peu à ce que je disais dans le podcast avec Anna, où je parlais souvent, c'est que pour réussir et avancer, il faut à la fois fuir quelque chose et à la fois avoir un objectif. Ouais. Tu vois, donc toi, à la fois, tu fuis la mort, cette idée-là de l'immobilisme, tout ce que tu veux avec ça, et tu vas vers grandir. T'as les deux
C'est ça. Les deux simultanément.
Ouais, je pense que c'est un des critères. Et la discipline.
Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis quelqu'un de très sérieux. C'est vrai, on me dit de faire un truc, moi je le fais tout de suite, je le fais hyper sérieusement, mais ça, c'est un caractère inné, quoi. Depuis que je suis petite, je suis comme ça. Hein.
Oui. Et ça s'apprend, tu penses ?
Peut-être très discipliné. Oui, mais il faut le vouloir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être disciplinés un mois, deux mois, trois mois, puis après, boum. Alors moi, j'ai mes rituels, j'ai mes exercices, mon sport,
Oui. Pour apprendre la discipline, il faut être discipliné, quoi.
Je pense. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est un caractère de... Quand même, un truc qui est en soi, quoi.
Ouais, t'as vraiment les trois critères dont je parlais, évoqués dans les gens qui réussissent, c'est la fuite d'un truc, le grand objectif. Ouais. Toi, tu t'arrêtes pas, je veux un cabinet. C'est...
Et donc,
c'est assez haut.
Ouais.
Et une discipline, une tolérance à la distraction et à la frustration, quoi. Donc, c'est les critères.
C'est ça.
Probablement que ton métier t'a aidé, hein, parce que bon, tu fais du chant, des trucs, c'est tout ce qui est artistique.
Après, attention, il ne faut pas voir la discipline comme un truc morne. Il n'y a que du plaisir là-dedans. Hein. C'est hyper important, c'est la notion de plaisir, parce que je ne suis pas, sérieuse, tu vois, tout le temps. J'aime bien être sérieuse, mais j'aime beaucoup, beaucoup le faire dans la détente, le plaisir et la rigolade, quoi.
Oui, je pense, tu fais bien de remonter là-dessus. Je pense que souvent les gens associent discipline à quelque chose de négatif, parce que ça rappelle des mots de l'école, des trucs comme ça, alors que là, c'est une discipline au sens de rituel, mais qui ne tiennent pas s'ils ne sont pas associés à quelque chose.
Ben, c'est ça, puis on doit quand même prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc, ça se fait naturellement chez moi. Si je vois quelqu'un et que je ne suis pas bien dans mon corps, je vais moins bien l'accompagner. Ça, je le sais.
Ok. Quelqu'un qui commence dans l'accompagnement, dans l'hypnose, ou qui a des difficultés, qui ne sont pas légitimes, qui n'ose pas, qui a du mal à rencontrer trouver des clients, etc. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup, hein, qui n'osent pas poster sur les réseaux, se montrer, qui vont réfléchir pendant 3 mois sur le logo de leur site internet au lieu de faire quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais ? Quel conseil tu donnerais pour qu'ils puissent sortir de ça ?
Moi, je pense que c'est relatif au regard des autres.
Ouais.
La peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être mal aimé, de ne pas savoir faire, Il y a beaucoup de ça tourne autour de ça. Donc après, ben c'est en faisant qu'on s'aperçoit si on aime déjà. C'est pas en attendant de plus avoir peur, parce que là on peut attendre des années, hein. Mais c'est plutôt en faisant, tiens, vas-y, fais et teste. C'est un peu mon mode de vie à moi, tu vois. C'est vas-y, fais, vois si t'aimes ou si t'aimes pas.
Ouais, mais comment tu gères cette peur du regard de l'autre, du jugement, de la critique? Comment tu dépasses ça? Parce que j'imagine que toi, t'as bien dû connaître le trac, t'as bien dû aussi un peu avoir peur avant certaines séances. Tu vois, c'est. Je suis un peu chiant avec mes questions, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est la différence entre celui qui ressent la peur et qui le fait pas. Et la différence entre toi, par exemple, ou d'autres qui ont peur quand même. Moi, j'ai peur de certains trucs. Alors, des fois, je ne fais pas, mais il y a quand même beaucoup de cas où je fais quand même.
Oui.
Ça, c'est quoi le passage?
Eh bien, j'ai peur et je le fais avec la peur. C'est-à-dire que je suis là avec ma peur. Et même là, pour l'émission de France 3, là, quand il y avait les caméras et tout ça, j'étais en train de faire des séances en plus, filmer, etc. Moi, j'avais le trac, hein. J'avais vraiment le trac, mais en même temps, comment je le gère? Je reviens dans mes sensations et je me dis, allez, vas-y, sois toi-même. Et puis, on s'en fout. Il y a un truc comme, c'est très rapide, hein, c'est très, je te le décortique, mais ça se fait en quelques millièmes de secondes. C'est un peu, j'ai le trac, il y a le cœur qui palpite. Et c'est comme si je sortais de moi-même, donc je m'oblige à re-rentrer en moi-même. Il y a un truc qui m'attire vers l'extérieur et je reviens en moi. C'est un mouvement qui me ramène à moi. Voilà, là, je te le décortique parce que je le revis. Mais je me dis tout le temps, reviens, reviens à toi, reviens. On s'en fout des autres, reviens dans tes sensations. C'est un peu ce mouvement-là.
Mais oui,
c'est respire, pas... toi, reviens ouais. en toi. Mmh. Parce que quand on a peur du regard des autres, c'est qu'on part de soi, on s'anesthésie presque, tu vois. On sort de « Ah là là, au secours, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» On regarde partout.
Oui, et focaliser sur l'extérieur. Soi, et j'imagine que quand tu voilà. reviens à toi, tu reviens à l'essence de qui tu es, de ce que, pourquoi tu le fais.
Ouais,
tout ce qui retouche le... Ouais, ça me fait réfléchir. Oui. Ça paraît logique quand tu le dis, mais moi, je vais toujours chercher un petit peu plus loin.
C'est presque physique, hein. C'est presque physique comme mouvement.
J'ai toujours cherché un peu plus loin. C'est que moi, je fais des covisions depuis des années. Celle où je suis, celle de tout à l'heure, en fait, ça vient toucher des sujets qui sont essentiels, des valeurs, une philosophie de vie, presque de la spiritualité. Et là, j'oublie tout le reste. Le flot sort tout seul. Ça, c'est pour ça que quand je fais le lien, donc j'essaye de donner l'exemple que moi, je vis. Et je repense à la scène, à la conférence que j'ai faite avec quelques autres, où je ne suis pas à l'aise du tout, moi, sur scène. En fait, je suis trop focalisé sur l'extérieur, à la fois pour l'avis des autres, mais aussi d'une bonne façon. Parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont envie d'entendre, machin, etc. Et j'oublie. Et dans la conférence que j'ai faite, là, qui est sur mon site, il y a un moment donné où je pense que ça se voit sur scène, je switch un peu où j'oublie que je suis sur scène. Et parce que je suis en train de parler de sujets importants qui me touchent, et après j'oublie, tu vois, et j'ai plus le début de la... Et je pense que c'est un truc qui est pas con.
C'est ça. C'est prendre conscience de, tiens, attends, je suis où là? Je suis là, en moi, ou je suis pas là? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je mets un masque? C'est toujours l'idée du masque aussi, hein, chez moi. Hein, c'est, tu sais, la scène, c'est te foutre un costume et, pour paraître, pour essayer de plaire au spectateur. Et là, je dirais plus dans la thérapie, c'est je suis moi-même, je fais avec ce que j'ai appris, je fais avec mes connaissances, mes compétences, la femme que je suis, et c'est hyper apaisant en fait aussi de revenir à soi comme ça.
Si, comment dire, une question que je pose dans tous les podcasts, hein, si tu avais un gigantesque panneau d'affichage dans lequel tu pouvais, sur lequel tu pouvais dire ce que tu veux, le mettre où tu voulais, il y aurait quoi dessus et pourquoi?
Il y aurait la question de l'autorisation, je pense. Autorisez-vous, soyez libre. Quelque chose qui serait hyper déculpabilisant pour les gens.
Oui.
Je cherche souvent la déculpabilité, moi, pour, tu vois, les genre, foutez-vous la paix ou quelque chose comme ça.
Okay.
Ouais.
Vous n'avez pas l'image. Moi, j'ai l'image, mais ça s'entend peut-être déjà dans l'espace de silence. Et il y a un truc assez fort, émotionnellement, hein, quand tu parles de ça, de l'autorisation.
Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça...
Oui, parce que moi, c'est... Bah, pour moi, ça tourne autour de tout ce que je ne me suis pas autorisée moi-même, hein, clairement. D'être vraie, en fait. D'être vraie. C'est encore une fois, la chanteuse... bah oui, moi, j'étais beaucoup aimée pour la chanteuse, mais en dessous, ça pleurait, ça criait, quoi. Mmh. En dessous, c'était... putain, je ne suis pas vraie, quoi. Et... c'est lourd à porter des années. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu une dépression à la clé, hein, finalement.
Et oui.
On va aimer la chanteuse, mais la femme là-dedans. Donc, je me suis complètement perdue.
Ouais, à force de porter un masque, tu n'étais plus vraiment...
Ah non, complètement. Même chez moi.
Et tu parles souvent d'être vrai. Puis, on en avait parlé aussi dans un live qu'on avait fait avec Benjamin.
Oui.
De ce côté... mais c'est... Est-ce qu'il y a des moments où tu pensais être vrai? Moi, je dis souvent, on peut... On est tout le temps vrai, mais est-ce que mon vrai d'il y a 10 ans, c'est mon vrai d'aujourd'hui, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça? Parce que les gens disent, moi, je suis vrai, je suis sincère. Ok, d'accord, mais comment tu le sais? Et ça veut dire quoi, être vrai, tu vois, pour toi? Ouais.
Bah, les ressentis du moment. Et effectivement, ça évolue. On évolue. On est, moi, je suis... être vrai, c'est là, c'est avec tout qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je peux être vrai? Voilà, avec mon énergie du jour, mon humeur du jour. Tu vois, il y a un... Peut-être que demain, je dirais pas la même chose. Et peut-être aussi, je peux m'autoriser à dire non demain alors que j'ai dit oui aujourd'hui.
Ok. C'est un truc qui revient souvent sur cette question, l'autorisation, la liberté. C'était brouette, mais je pense que c'est un truc dont on a tous ce besoin. De s'autoriser à être... Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez vrai, assez direct, etc. Mais je pense qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre pour aller... dans l'expression, en tout cas, plus publique.
Ouais. Et pourtant, tu dis atypique, hein, le titre du podcast, hein, mais atypique dans le vrai.
Ouais.
Atypique, ouais. Authentique.
Voilà, l'idée d'atypique, c'est vraiment l'idée. Parce que les gens qui ont transformé leur vie pour devenir accompagnants, aider les autres, toi, c'est pas forcément le profil type HPI, HPI, etc. Mais, bon, c'est.
Ouais,
on fait réfléchir, en tout cas, j'ai des blancs là, parce que c'est ce truc de revenir sur soi à l'intérieur et de...
Oui.
Je sais pas, s'il y a des trucs comme ça, que moi, des fois, je comprends pas, je dis aux gens, ça fait 200 fois que je le dis en co-vision, mais il y a la phrase, le contexte, le moment où c'est dit qui rentre. Chez certaines personnes, et les gens me disent, tiens, quand t'as dit ça, ça m'a... Et là, il y a un truc qui vient de switcher, de compréhension, de repartir de soi.
Oui, j'ai senti.
Et qui m'intéresse, et qui est cool. Ouais. Donc, merci pour ça.
Bien, je
fais
merci
séances,
à toi.
Je fais des séances gratos avec mes podcasts, c'est super.
Bah ouais, tu vois, c'est trop bien. Hein. Oh là donc, là, tu vas apprendre plein de trucs.
Ouais, c'est vraiment, c'est un truc que je sais, tu vois. Et là, c'est un truc que je comprends que je peux modéliser et jouer avec toi. Justement, pour le coup, là, il est sorti de l'extérieur. C'est devenu ce que moi j'appelle ça. C'est devenu un objet au sens tiens. Cette posture, cette attitude, cette façon de se regarder en soi, de trop regarder les autres, devient quelque chose que je comprends, c'est-à-dire au sens que je peux jouer avec et donc en faire l'expérience et mieux le reconnaître. Il n'est pas juste en moi inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça.
Voilà.
Exactement. Bref, exactement.
Peut-être que ça aidera aussi ceux qui nous écoutent.
J'espère bien.
On va bientôt terminer ce podcast-là. Est-ce que tu as envie de terminer, dire quelque chose à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, un petit message, un truc, ou pas?
Non, tu vois, ça va rester dans la vie. Un message qui, voilà, moi je suis... donner de l'espoir aussi que même si des gens changent de métier... c'est toujours pour des bonnes raisons de toute façon, et puis que la passion elle peut venir aussi, la passion elle peut naître dans la découverte de ce qu'on fait, enfin c'est allez-y quoi, découvrez vos capacités, votre potentiel, parce que la vie elle passe vite, et là moi je suis plus proche des bon allez, c'est maintenant et demain c'est peut-être trop tard, donc voilà, petit message d'encouragement.
Oui, en plus, tu as un parcours assez inspirant, donc comme dépression, deux tentatives de suicide,
ouais.
Des moments de vie que tu n'as pas forcément évoqués là. Moi, je connais un peu, pas facile. Tu as toujours ces yeux qui brillent, cette joie qui est...
Ben oui, chouette. Donc tout est possible. Tout est possible.
Une résilience et un parcours atypique pour le coup, mais plutôt inspirant. Donc,
je pense.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et si, pour ceux qui nous écoutent, je laisserai les liens vers ce que fait Anne-Sophie, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'organiser un stage hypnose et voix quelque part. Elle a laissé entendre que si on l'invitait, si on lui disait de venir, elle viendrait. Donc tout est possible.
Et avec puis, plaisir.
Je te remercie beaucoup, ça m'a fait très très plaisir de t'avoir.
Moi aussi. Revoir. Et super réciproque, merci Laurent.
Merci à celles et ceux qui nous écoutent. Des bisous à tous et à très vite.